Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. La Belgique va perdre une de ses bières trappistes. Lachel ne pourra plus bénéficier de l'appellation. On en parle avec Jean-Luc Bodeux. Mais d'abord, de plus en plus de politiques en Belgique doivent être placés sous protection policière. Nous sommes le vendredi 27 janvier. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le président de Voreuil, Conor Rousseau, placé sous protection policière après avoir reçu des lettres de menace. Le ministre de la Justice, emmené en lieu sûr après la découverte d'un projet d'enlèvement. Ludivine de Lunder, ministre de la Défense, protégée pendant la traque de Jürgen Konings. Les exemples d'hommes et de femmes politiques placés sous la protection de la police ne manquent pas ces dernières années en Belgique. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment déterminer qui a besoin de quelle protection ? Stéphane Van de Velde du service politique a enquêté sur le sujet. Il nous explique ce qu'il a appris.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre.
Il y en a beaucoup chez nous des personnalités politiques qui bénéficient d'une protection policière.
Alors pour le moment, ça marque les esprits parce que ce sont des ministres du gouvernement fédéral. Et il y en a 6 en Flandre qui ont ou qui bénéficient encore de protection policière depuis quelques mois. Et il y en a 2 en Wallonie, il y a eu Ludivine de Lunder, ministre de la Défense, et Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité. Alors, on voit qu'il y a 122 personnes en Belgique qui bénéficient de protection policière. Alors là-dedans, il y a des hommes et des femmes politiques, mais il y a aussi des magistrats, des avocats, des policiers, des journalistes. C'est beaucoup, et à la fois, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est beaucoup parce que depuis 2015, il y a eu une augmentation forte, mais depuis 3 ans, c'est assez stable.
Vous avez pu vous entretenir avec toute une série de ces hommes et femmes politiques qui bénéficient d'une protection policière. Comment est-ce qu'ils le vivent, eux, au quotidien ?
Ouais, c'est jamais, on sent quand même que d'abord ils sont pudiques, ils savent que ça fait partie du job et de leur fonction, donc ils ne tombent pas trop des nues. Mais en même temps, on sent que c'est quand même pas gai, que c'est une intrusion dans leur vie professionnelle et surtout personnelle. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que ça peut laisser quelques traces, que ça n'implique pas qu'eux et que ça nécessite aussi de changer toute une série d'habitudes.
Donc vous dites que ça n'implique pas que, ça veut dire qu'il y a évidemment des conséquences pour leur famille, par exemple.
Oui, par exemple, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a dû rejoindre une safe house avec toute sa famille une première fois une semaine, une deuxième fois un mois, en décembre. Les enfants n'ont pas été scolarisés pendant cette période-là. Et depuis lors, Vincent Van Quickenborn a décidé de faire suivre ses enfants par un pédopsychiatre. Il le dit, il n'y a pas de dégâts apparents pour le moment, mais on veut quand même les protéger.
Vous parliez également de traces à long terme, ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes politiques qui ont fait par le passé l'objet d'une protection policière parce qu'ils avaient été menacés et que ces menaces, cette protection, ça a impliqué un changement de leur comportement aujourd'hui.
Ben, certains ont gardé certains réflexes, donc par exemple la ministre de la Défense, Ludivine de Lunder, elle avait été briefée par toute une série de gestes qu'elle devait faire, des gestes de sécurité. Et bon, ben, elle a pris toujours le pli de faire certains. Elle dit que quand elle est en voiture, notamment, elle aime toujours regarder un peu dans le rétroviseur. Elle sait que si elle est suivie, elle doit aller au commissariat le plus proche. Donc voilà, elle a quand même des mécanismes qui se mettent en place de temps en temps. Alors après, elle dit « j'évite d'y penser tout le temps, sinon ce n'est plus une vie ».
Au niveau de la procédure, comment est-ce que ça se passe si un homme, une femme politique reçoit des menaces? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est enclenché comme service?
Mais tout dépend du type de menace. Donc d'abord, elle porte plainte. Et puis, si la menace vient, par exemple, d'un groupe terroriste ou d'un groupuscule ou de personnes qui mettent à mal la sécurité intérieure, à ce moment-là, ces menaces sont prises en charge par l'OCAM. Et l'OCAM va les situer sur une échelle de 1 à 4. 4, et la protection dépendra du degré atteint sur cette échelle.
Et pour se faire une idée, un degré 1, ça veut dire quoi? Un degré 4, ça veut dire quoi?
Mais ça, il ne communique pas trop, mais en gros, un degré 4, ben, c'est la safe house, comme Vincent Van Quickenborn l'a eu. Avant ça, ben, c'est une protection policière rapprochée. Avant ça, c'est une protection policière, mais plus lointaine. Et puis, au niveau 1, ça peut être soit des gardes tout au long de la nuit à des heures différentes, soit un numéro d'urgence. C'est ce qu'a eu, par exemple, Rowley DeBow lorsqu'il a été agressé par un désaxé sur le podium d'un meeting. Après ça, il n'a pas été, lui, suivi par une protection policière puisque la menace était jugée éteinte, mais il avait quand même un numéro d'urgence qui le reliait à la police locale de Liège qui pouvait appeler à n'importe quel moment.
On prend un peu plus de hauteur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène de violence envers les élus ?
Alors, on pourrait se dire que c'est pas très neuf. Une partie des élus politiques ont subi des menaces tout au long de leur carrière. Ce qui est marquant ici, c'est que ça prend quand même un peu d'ampleur et que surtout, on voit que la menace se rapproche. On n'est plus dans la simple lettre anonyme. On est dans une menace jugée réelle. Et donc, ça, ce phénomène, il peut s'expliquer selon trois axes. Le premier, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux libèrent la parole, une parole qui est parfois haineuse. On voit que ces réseaux sociaux ont apporté, par exemple, le trumpisme ou le bolsonarisme au Brésil et aux États-Unis, et qu'on a vu que ces gens sont passés à l'acte face aux institutions. Les institutions sont devenues un peu désacralisées aussi, et donc on s'en prend à eux plus facilement. Alors un deuxième phénomène, ben, c'est le trafic de drogue qui touche notre pays. Alors il ne touche pas que notre pays, mais on voit quand même que c'est une menace réelle. Un troisième phénomène, ce sont évidemment les attentats terroristes qui amènent aussi ces menaces.
Vu comment on peut expliquer ce phénomène, on peut se douter que ce n'est pas du tout une problématique qui est circonscrite à notre pays. Il y a d'autres hommes et femmes politiques à travers le monde qui doivent subir le même genre de choses.
Exactement. On voit que c'est général. D'abord, si on prend le trafic de drogue, ben, on voit que ça touche tous les ports, les gros ports européens, Rotterdam, Le Havre, les ports espagnols. Aux Pays-Bas, par exemple, Mark Rutte, qui se déplaçait encore souvent en vélo au Parlement ou à son domicile de Premier ministre, ben, maintenant est suivi par une escorte policière. On voit qu'en France, il y a eu toute une série d'élus l'année passée qui ont été soit menacés, soit agressés physiquement. Ça avait fait un peu débat fin de l'année passée en France. Donc, c'est pas du tout... c'est pas un phénomène belge.
Une dernière petite chose, ça a été compliqué pour vous de travailler sur le dossier quand vous avez interrogé les hommes et femmes politiques qui ont bénéficié d'une protection policière. Ils en parlaient facilement ou on sent quand même une petite culture du secret autour de ce genre de questions?
Ça dépend qui. Alors certains en parlent facilement parce que voilà, c'est une expérience qu'ils veulent partager. D'autres ont peur de dire qu'ils ont été sous escorte policière, qu'ils ne le sont plus de peur que la menace réapparaisse. Donc en termes de détails, on est sur des micro-petits détails, mais ils ne m'ont pas expliqué leur routine quotidienne. Par exemple, je sais qu'un ministre avait tout un briefing à faire avant de rentrer dans l'auto blindé. Il devait rentrer d'une certaine manière, mais il n'a pas voulu m'expliquer de quelle manière il devait rentrer.
Merci beaucoup Stéphane.
Mais de rien Pierre.
La bière Hachel ne sera bientôt plus une bière trappiste. En cause, la vente probable de l'abbaye Saint-Benoît, située dans le village du même nom dans la province de Limbourg. L'acheteur est un entrepreneur, Jan Tormans. S'il souhaite agrandir la brasserie, les moines n'y habiteront plus et ne feront donc plus partie du processus de brassage. Autrement dit, l'Hachel ne pourra plus bénéficier de l'appellation trappiste. La bière gardera toujours ce petit goût fruité que vous lui connaissez et la Belgique peut toujours compter sur ses 5 autres trappistes. Pour en parler avec nous, Jean-Luc Baudeux, journaliste de la Cellule Wallonne.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour, bonjour.
Vous, votre bière Hachel, vous la buvez dans quel verre?
Ah, toujours dans le verre Calice Hachel. J'essaye de boire toute la bière dans le verre qui a été créé pour boire cette bière.
Au fait, c'est quoi une bière trappiste? Ça vient d'où?
Alors, c'est une bière qui est brassée dans une abbaye trappiste cistercienne uniquement. Et c'est une bière aussi qui, pour avoir le logo authentique trappiste, qui est encore un peu plus pointique que simplement le nom trappiste, doit répondre à trois critères, c'est-à-dire d'être brassé dans une abbaye cistercienne où il y a des moines, une communauté vivante, où ces moines participent à la gestion de l'abbaye, évidemment, mais également de la brasserie. Et aussi, une partie des bénéfices liés à la brasserie doit être redistribuée pour le patrimoine de l'abbaye, je dirais, et aussi à des œuvres sociales extérieures, ou pour l'ordre cistercien au sens large.
Qui contrôle ça ?
Oh ben, le contrôle, c'est il y a une association authentique Trappist Product, AIT, qui surveille la véracité des faits. Mais je pense que c'est facile à contrôler. On sait très bien où les bières sont produites, où elles sont. On sait très bien aussi s'il y a des moines qui sont encore dans l'abbaye. Et après, la gestion financière, c'est interne à l'ordre trappiste.
On a cette image des moines qui brassent de la bière très secrètement, comme ça, dans le secret de Dieu. Est-ce que c'est encore ça ?
Ça, c'est une image un peu moyenâgeuse où les moines, les grandes communautés dans les abbayes étaient larges et il y avait beaucoup de population, etc. Dans les abbayes, c'est plus du tout le cas. Si on prend les abbayes actuellement trappistes en Belgique, il n'y a quasiment plus de moines qui, je dirais, mettent la main à la pâte, à part peut-être encore à Westvleteren, mais même des brasseries comme Orval, il n'y a jamais eu de moines brasseurs. Il y a eu un laborantin, il y a eu un ou l'autre moine qui s'occupait de la brasserie, mais pas en tant que... Et ailleurs, oui, c'est vrai qu'à Rochefort, à Chimay, il y a eu de grands personnages, de grands moines qui étaient passionnés par l'univers de la bière et qui ont fait avancer les choses, mais c'est plus du tout le cas actuellement. C'est vrai que dans toutes les brasseries actuellement, il y a les un ou quelques moines chapeautent l'organisation brassicole, mais plus comme auparavant.
Pourquoi plus comme auparavant ?
Mais parce que les communautés dans les abbayes se sont réduites. Hein. Il faut bien reconnaître que des abbayes comme Orval, Rochefort et les autres n'ont plus beaucoup de moines. Ils sont une petite dizaine à Rochefort, ils sont moins de 10 à Orval, donc ils ne peuvent pas tous s'occuper. Et en plus, la plupart sont à un âge respectable, je dirais. Donc voilà, ils ne peuvent pas s'occuper de tout. Auparavant, ils faisaient le fromage, ils faisaient la bière, ils s'occupaient, ils avaient un potager, ils s'occupaient parfois de la gestion forestière, etc. Mais il y a eu des abbayes en Belgique où ils étaient 80. On n'est plus du tout à ce temps-là. Donc, vu le manque d'effectifs, ben, il faut déléguer à du personnel laïque pour le brassage et les occupations quotidiennes liées à la brasserie, mais ce sont quand même les décisions importantes et la gestion est sous la surveillance d'un ou de quelques moines.
Je veux bien qu'on revienne sur la bière Hachel, donc hein, on l'a dit qu'il ne sera bientôt plus une bière trappiste. Pourquoi l'entrepreneur Yann Tormans souhaite racheter l'abbaye Saint-Benoît ?
Ah, je ne le connais pas, c'est un mystère, donc je suppose qu'il a eu un coup de foudre pour le lieu, qu'il se dit que il y a sans doute moyen aussi avec le potentiel imagé et de qualité de la bière actuelle qu'il y a moyen de la faire revivre. Et il se dit, ben, pourquoi pas, même si elle n'aura plus le nom trappiste, qu'il y a toujours, si la qualité du produit est là, qu'il pourra trouver suffisamment d'acheteurs, je dirais, pour faire vivre et la bière et le site.
Elle va garder son public, vous pensez ?
Ouais, ça c'est un mystère. Le nom trappiste pour une partie des consommateurs est très porteur. Quand on retire le mot trappiste, bah, certains se disent c'est peut-être un gage de qualité en moins. Moi, j'en suis pas certain. Il y a beaucoup de bières au nom d'abbaye, donc qui s'appellent bières d'abbaye, qui ne sont pas faites du tout dans les abbayes et qui sont commercialisées à grande échelle. Donc, je pense qu'il y a une partie des consommateurs qui sont très pointus par rapport à cela et la grande majorité ne le sont moins. Donc voilà, après, c'est à lui à faire le travail et s'il sait garder une bière de grande qualité, ben, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas commercialisée.
Peut-être pour conclure notre entretien, est-ce qu'on va s'attendre à perdre d'autres bières trappistes ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être d'autres rachats ?
Alors, personnellement, je ne le pense pas parce que les autres bières... faut dire que Hachel était la dernière née comme bière trappiste. C'est pas une vieille brasserie, elle a été initiée sur base d'un projet en 1997-98. Donc c'est une bière qui a finalement vécu 20 ans en tant que trappiste. Les autres sont beaucoup plus vieilles. Il y a une aura autour de ces abbayes, tant touristiques que patrimoniales, que religieuses et pour la qualité de leurs produits. Je vois mal, même s'il y a de moins en moins de moines, je vois mal la communauté de l'ordre cistercien lâcher, entre guillemets, ces abbayes. Et je pense qu'il y aura à ce moment-là un peu de transit de moines d'un côté à l'autre, venant de France, d'Italie ou d'ailleurs, pour que ces abbayes trappistes continuent à vivre en Belgique, parce qu'elles ont une telle renommée que, et elles viennent d'investir, notamment Orval et Rochefort, je crois que c'est deux-là que je connais bien, énormément en millions d'euros ces dernières années. Je vois mal que tout ce travail et tout cet investissement se perdent en quelques mois ou quelques années.
Merci beaucoup Jean-Luc.
Merci.
Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des Racines élémentaires. Ce samedi, c'est une personnalité politique française qui se raconte. Ancienne ministre de la Justice, ancienne candidate à la présidentielle, Christiane Taubira s'est livrée face à Nicolas Crous et à Joël Meskens. Joël qui nous rappelle qui est Christiane Taubira et qui nous dit pourquoi il faut lire cette interview.
Oui, Christiane Taubira, c'est l'ancienne ministre de la Justice en France. Elle a été garde des Sceaux pendant le mandat de François Hollande entre 2012 et 2016. C'est aussi une femme qui a été candidate à la présidentielle en 2002, déjà il y a 20 ans, et puis qui aurait voulu l'être à la dernière présidentielle l'an dernier, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout puisqu'elle n'a pas recueilli, enfin elle a renoncé avant de recueillir les 500 signatures, les 500 parrainages qui sont requis en France pour entrer dans la compétition. Avec Nicolas Crous, on l'a rencontré dans un café près de la place de la Sorbonne à Paris. Et c'est la première fois que, je pense, Christiane Taubira se livre à ce point-là. Elle raconte des choses qu'elle n'a jamais racontées. Elle dit sa vie intime, son enfance en Guyane. Une enfance très particulière, en fait, parce qu'elle était née dans une famille très modeste de 11 enfants et a été élevée par une mère seule qui était fille de salle, comme on appelait cela à l'époque, avant d'être aide-soignante et infirmière. Une femme modeste, mais en même temps qui n'a jamais exprimé sa douleur, qui manifestait au contraire de la joie et qui a tout appris à Christiane Taubira. On s'aperçoit à quel point cette femme qui a tant combattu pour les autres femmes était elle-même déterminée par le parcours de sa propre mère. Au départ, Christiane Taubira a été assez surprise parce que c'est une femme très sollicitée. Elle vient d'écrire un livre, en fait une pièce de théâtre qui s'appelle Frivolité et qui est en fait le cœur d'une douzaine de femmes qui sont sur scène et qui discourent de la vie, du monde, etc. Et donc je pense qu'elle s'attendait à une interview peut-être un petit peu plus habituelle, comme elle en a l'habitude en cette période de promotion de son livre. Et en fait, elle n'avait pas tout à fait écouté son attaché de presse qui lui avait donné un peu le canevas de cette interview, et elle a été surprise par le caractère intime de cet entretien. Ça l'a un petit peu déroutée, d'autant plus qu'on creusait assez longtemps puisqu'on est resté plus d'une heure, une heure et demie avec elle, et finalement elle s'est totalement prêtée au jeu, elle s'est jetée dans la conversation avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de générosité aussi, et avec un regard très, très ému sur son propre passé. Bah, Christiane Taubira est une femme très rieuse, très, 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 très gaie et très combative. Il faut l'avoir avec soi plutôt que contre soi. Et quand on lui a proposé, on n'a pas osé lui proposer en fait les vidéos habituelles qu'on fait pour le fameux tac au tac, parce qu'elle nous avait déjà consacré une heure et demie et que l'endroit ne s'y prêtait pas vraiment. Mais il a fallu déjà la convaincre de faire quelques photos parce qu'elle n'aime pas le froid de Paris et c'est vraiment très très compliqué pour elle d'enlever son manteau et de faire quelques photos sur la place de la Sorbonne. Mais encore une fois, elle s'est prêtée au jeu et ça donne de magnifiques photos faites par notre photographe Geoffroy Van der Hasselt.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi.